France Inter. Le 7-9. Intervenez.
Didier nous attend au standard de France Inter. Didier nous appelle de Paris. Bonjour, bienvenue. David Thompson vous écoute et nous aussi.
Oui, bonjour. Voilà. Alors, j'avais une question qui est en fait deux questions et une remarque. Comment être certain donc que David, donc le journaliste, n'est pas manipulé, donc victime lui-même du potentiellement du syndrome de Stockholm, parce qu'il a mis des mécanismes de contrôle en place pour effectivement rester purement objectif. Et là, donc le deuxième volet, c'est comment être certain que ce journaliste qui aujourd'hui quand même est assez écouté en période critique ou d'un point de vue de l'opinion, c'est quand même des questions très sensibles, il n'est pas lui-même en train de manipuler l'opinion publique par rapport à une empathie potentielle, alors je mâche du moins entre guillemets tout ça, par rapport au terrorisme. Et une question, du moins une remarque, personnellement je pense que aujourd'hui, vu le contexte, toute tentative d'explication, quelle qu'elle soit, de ces djihadistes qui reviennent ou ceux qui sont partis, est vaine et même non avenue et même potentiellement dangereuse, parce que
ça c'est la ligne Manuel Valls. On n'explique pas, ou expliquer c'est déjà comprendre, si je résume.
Je pense que c'est...
Il est revenu dessus depuis, oui.
C'est quand même assez critique, ces gens-là sont toxiques pour la société, je pense que perdre du temps... Puis même, il y a un risque même qu'effectivement on manipule l'opinion, et je pense personnellement que c'est très dangereux.
On écoute la réponse de David Thompson, Didier, si vous voulez bien.
Bon, j'ai tout à fait l'habitude de ce type de remarques, puisque quand on est journaliste et qu'on travaille sur les questions et les dynamiques djihadistes, on doit constamment se justifier, expliquer sa méthodologie, donc je suis très à l'aise pour le faire et je comprends les interrogations de certains. Le travail de ce livre, il ne peut pas être un travail de manipulation, puisque c'est un travail de déconstruction totale de la réalité qui est vendue par la propagande de l'État islamique. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont revenus, même s'ils sont encore ancrés dans leur radicalité, et qui expliquent pourquoi ils ont été déçus de la réalité qu'ils ont pu découvrir, qui était tout à fait différente de celle qu'on leur avait vendue derrière leur ordinateur. Si vous voulez, ça peut en rien, du coup, être un discours qui peut être considéré comme un discours qui manquerait de distance par rapport au sujet. Donc j'invite cet auditeur Didier à lire le livre, et je pense qu'il s'en rendra compte de lui-même.
Patrick nous appelle. Bonjour Patrick, bienvenue.
Oui, bonjour messieurs, merci de prendre ma question.
Et mesdames, oui, Sarah Guibaudot et Hélène Jouan sont dans ce studio, je le précise évidemment.
Oui, messieurs, dames, excusez-moi. Je voulais simplement savoir si ces personnes, ces djihadistes, et s'ils ont un but final, c'est-à-dire un objectif sur les pays occidentaux et sur le monde entier. Ont-ils réellement un objectif? Quel est cet objectif? Et ensuite, sont-ils eux-mêmes satisfaits de la montée des extrêmes droites sur toute l'Europe, par exemple, et même aux États-Unis, à la limite? Et ensuite, sont-ils contents aussi et satisfaits de voir aussi qu'il y a une montée réactionnaire des catholiques en France et ailleurs?
Merci Patrick. La réponse de David Thompson.
Alors, en ce qui concerne la seconde question, tout ce qui peut, pour les djihadistes, susciter une forme de chaos dans nos sociétés est vraiment un succès pour eux. Donc, c'est un de leurs objectifs. Ils l'ont toujours dit dans tous leurs discours, dans leurs éléments de propagande. Ils l'ont même théorisé dans des livres, l'administration du chaos. Il s'agit tout simplement de faire vaciller les socles des sociétés démocratiques, puisque ils combattent la démocratie qui par nature est impie à leurs yeux. Donc oui, évidemment, ça participe de leur stratégie. Je suis pas du tout en train de dire FN égale Daesh, qu'on soit bien d'accord. Mais étonnamment, la vision de l'islam qui est celle de l'extrême droite est très similaire à celle des djihadistes. Lorsque l'extrême droite dit l'islam est incompatible avec la démocratie et avec la République, les djihadistes applaudissent. Et étonnamment, beaucoup de djihadistes français ont une bonne image d'un parti comme le Front National. Et effectivement, ils n'ont jamais caché dans les entretiens qu'ils ne seraient pas mécontents que ce parti arrive au pouvoir, ne serait-ce parce que ça ferait monter un sentiment anti-islam en France, dont souffriraient les musulmans qui ont décidé de rester en France, et que ça les pousserait en retour à quitter la France terre de mécréance à leurs yeux, pour rejoindre la terre de djihad. Pour répondre à la première question de l'auditeur, évidemment qu'ils ont un projet. Et c'est d'ailleurs ce qui fait leur force. Et j'en réponds en même temps à la question du premier auditeur. Évidemment qu'il faut comprendre ce projet. Et que c'est important de le comprendre. Parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas lutter, mais même si moi je ne suis pas dans un journaliste de combat du tout, contre cette idéologie, vous ne pouvez pas, si vous ne la comprenez pas. Donc c'est l'évidence même. Mais oui, ils ont un projet politique très clair, et c'est pour ça que c'est tout sauf du nihilisme à mes yeux. Parce que il y a un projet, on pourra en parler, il y a un projet d'abord qui est individualiste en fait, mais aussi, beaucoup plus important, celui de la construction d'une administration politique, etc. Et puis leur projet, in fine, à tous, leur objectif numéro un, c'est le paradis. Ils ont la conviction, et ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas évacuer totalement les convictions religieuses, que ça va leur ouvrir les portes du paradis.
David Thompson, vous avez dit tout à l'heure, le gouvernement voudrait nous faire croire finalement que tout un chacun, que n'importe lequel d'entre nous peut devenir djihadiste. C'est faux. Pourquoi ?
Il y a eu la construction d'un dogme gouvernemental sur cette question-là depuis le moment où les autorités ont pris conscience de la réalité du phénomène, qui est en gros début printemps 2014. Pour des raisons assez saines finalement, qui étaient de dire il ne faut pas dresser les communautés les unes contre les autres, il ne faut pas faire d'amalgame. Du coup, le discours institutionnel a eu tendance à laisser entendre que des gens de tous les milieux pouvaient être touchés par cette bascule djihadiste. Ce n'est pas le cas.
C'est pas le cas des témoignages que vous avez recueillis.
C'est-à-dire que évidemment,
phénomène de secte, c'est pas le phénomène sectaire.
Le dogme sectaire, si vous voulez, on peut pas non plus l'évacuer totalement, mais on peut pas résumer le phénomène à un engagement sectaire. L'engagement sectaire, ça arrangeait tout le monde de dire ça, parce que ça permet d'évacuer. De dire, bon, ça n'a aucun lien avec la religion, alors que bien sûr que si, ça a un lien avec la religion et avec l'islam. Une certaine conception, en tout cas, de l'islam, qui n'est évidemment pas la conception de l'infinie majorité des musulmans. Et ça permettait aussi de dire, ça n'a rien de politique. Donc ça évacuait le besoin de l'autorité de se remettre en cause pour tout un tas de choses, notamment la question du passé colonial et des blessures que ce passé, que ces impensés ont laissé encore aujourd'hui chez des jeunes qui ont 20 ans. Voilà. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Et on pourra parler ensuite du substrat, puisque...
Justement, c'est quoi le substrat, alors ?
Bah, y a évidemment un substrat sociologique. Le djihadisme, c'est pas uniquement une idéologie de pauvres. Je raconte dans le livre l'exemple d'une famille de médecins qui est partie au sein de l'EI et qui a travaillé au sein de l'EI, dont le fils n'a jamais manqué de rien, qui était bon élève, qui a eu son bac avec mention. Donc ce n'est pas uniquement une idéologie de pauvres. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même préciser que les gens qui sont issus de milieux favorisés dans le djihadisme sont des cas minoritaires. La majorité des djihadistes sont issus des quartiers populaires, beaucoup sont issus des quartiers sensibles, sont issus des minorités également, et d'ailleurs au sein même de l'État islamique, ce sont ces origines qui leur valent une mauvaise réputation. Ils sont accusés, je vais citer l'exemple...
Des voyous ?
Exactement. ils sont accusés au sein... Parmi toutes les nationalités, les Français sont ceux qui ont la plus mauvaise réputation, notamment parce qu'ils restent Français, même s'ils sont djihadistes au sein de l'État islamique. Mais je vais citer juste une phrase d'une des jeunes femmes qui est rentrée. Elle m'a dit, les Français, ils ont apporté leur jahiliya de cité en Syrie. Ça veut dire, leur jahiliya, ça veut dire leur vie pré-islamique, leurs mauvaises habitudes de quartier sensible, ils les ont, leurs codes de quartier, codes sociaux, codes de communication. C'est ce qui fait qu'ils ont cette mauvaise réputation.
Sarah Guibaudeau.
Peut-être une question, juste vous avez parlé de, effectivement ils ont un projet, le projet de l'État islamique, il était très lié à leur territoire, à cette idée de califat. Aujourd'hui tout ça va peut-être disparaître, militairement l'État islamique va peut-être être battu. Alors les revenants, ils reviennent vers quoi ? Ils reviennent pourquoi ? D'abord, est-ce qu'ils reviennent tous en France ou ailleurs ? Est-ce que c'est pour repartir ailleurs ? C'est dans quel but en fait ?
Alors effectivement, aujourd'hui l'État islamique est depuis le printemps dernier, mais c'est un phénomène qui a commencé tout au long de l'année 2015, aujourd'hui est en situation de déclin. Ça ne veut pas forcément dire que la menace est en déclin, parce que il est en train de retourner à la clandestinité. C'est-à-dire que c'était la situation qui était la sienne avant 2014. Retour à la clandestinité, ça veut dire finalement pour les services de renseignement, difficulté beaucoup plus importante pour les surveiller. Parce qu'il faut bien imaginer que de 2012-13 à cet été, l'État islamique, c'était un livre ouvert. C'est-à-dire c'était des gens qui communiquaient sur des réseaux publics, c'était des gens qui étaient très faciles à surveiller, à connaître. Ça n'a pas empêché, ça ne les a pas empêchés de frapper alors qu'ils étaient extrêmement connus. Hein. Je prends l'exemple d'Abaoud, qui était une petite vedette du djihadisme français. Hein. C'est parce qu'il y a des vedettes dans le djihadisme français, dans leur cercle. C'était le visage le plus connu, ça ne l'a pas empêché de rentrer. Pourquoi est-ce qu'il rentre? Alors là, au début, les premiers retours, vers 2014, c'était parce que vous aviez des groupes c'est ce qu'on appelle la fitna, la discorde entre les groupes, des groupes djihadistes qui se sont mis à se faire la guerre, en Al-Qaïda et l'État islamique. Des Français qui étaient partis ensemble, parfois, des copains de quartier, se sont retrouvés dans des brigades rebelles. Ensuite, vous avez une paranoïa absolue, une chasse aux sorcières au sein de l'EI aujourd'hui, au sens propre du terme, parce qu'on peut être exécuté pour sorcellerie. Donc, il y a une paranoïa et une peur. L'État islamique règne par la terreur au sein même de ses propres troupes. Donc, par exemple, je ne connais pas la majorité des Français avec qui j'ai fait des entretiens sont passés par les prisons de l'État islamique. Ensuite, la situation militaire se dégrade fortement. Donc, le vent tourne. La phase d'euphorie est terminée pour eux.
Est-ce que l'aura djihadiste décline ou continue à être forte?
Forcément, oui. Parce que les deux éléments majeurs qui faisaient l'attractivité de l'État islamique, c'était un, son élan de victoire militaire de 2013 à 2015, qui leur permettait de dire... Vous voyez, rien ne nous résiste, c'est la preuve que nous sommes portés par la Providence, c'est la preuve que nous sommes, je cite, sur la voie prophétique. Ça, c'est un élément de qui faisait leur popularité auprès de leurs partisans. Et puis l'autre, c'était qu'ils avaient fait ce qu'Al-Qaïda n'avait jamais réussi à faire, c'est-à-dire ce fameux contrôle territorial, et puis la construction de ce proto-État, de cette proto-administration, qui a été mise en place par la force, par la terreur, en captant une administration qui existait déjà. Finalement, ils n'ont rien construit, ils n'ont fait qu'accaparer. Mais ils ont pu dire ainsi, nous avons un califat, nous avons créé cette utopie de cité idéale pour tous les musulmans. Aujourd'hui, ces deux éléments sont en train de disparaître. Donc oui, l'attractivité est évidemment beaucoup moins grande aujourd'hui qu'il y a encore 6 mois.
David Thompson, vous restez avec nous quelques minutes encore. Dans quelques instants, la dernière question d'Augustin Trapenard et Frédéric Becbédé qui nous rejoint dans ce studio.